que c'est mon vieux Joseph que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie.
Oui, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Libertaire. C'est l'émission Ni Dieu ni Maître sur la radio de la Fédération anarchiste. C'est la dernière émission de l'année 2016, puisque dimanche prochain, ce sera l'émission Travailleurs sans frontières, avec Jean Renaud et Koulibaly. Et dimanche suivant, premier dimanche de l'année 2017, ce sera un peu d'air frais. Donc on démarre ce dimanche avec une année 2016 qui voit une première historique en France. Historique peut-être depuis le Moyen-Âge même, depuis la création de la Sorbonne, rien moins. À moins que cela ait pu se produire déjà au cours du 19e siècle, mais en tout cas, à l'époque moderne, ça ne s'était pas encore produit. Donc il s'agit d'examiner dans ce dossier les dérives que la loi LRU, liberté, responsabilité des universités, va permettre de produire. Et cette dérive, elle est majeure, je pense une fois de plus à l'université de Strasbourg. Alors l'université de Strasbourg, on vous en parle régulièrement parce que c'est le lieu un peu de toutes les expérimentations, c'est le laboratoire du retour de la réaction, du retour au 19e siècle, du retour au moment antérieur à la loi de 1905. Et ce retour est dans cette région d'Alsace-Moselle rendu possible aussi par le fait que, finalement, depuis 1918, depuis la fin de la première guerre avec l'Allemagne, eh bien, la République française n'est jamais revenue sur ce concordat qui permet finalement au gouvernement de la République de pactiser avec les religions. Et donc, il était logique que ce qui commence à ce qui est arrivé arriva. C'était absolument logique, et on a eu pour la première fois donc depuis des siècles manifestement l'élection à la présidence de l'Université de Strasbourg, l'Université publique de Strasbourg, on a eu comme président un prêtre, ni plus ni moins qu'un curé, à la tête de l'Université de Strasbourg. Donc, je crois qu'il est important pour que les auditeurs se réalisent en fait l'ampleur du problème. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, un professeur d'université a des pouvoirs très étendus, hein, depuis la loi mise en place par la droite, par Sarkozy, et confirmée par la gauche. Ce président d'université, qui règne sur 50 000 étudiants, des milliers d'enseignants et de personnels ouvriers, de services, ingénieurs, qui assurent le fonctionnement quotidien de l'université, et désormais, il a des pouvoirs au moins aussi étendus qu'un chef d'entreprise, et je dirais même peut-être plus, en ce sens qu'il ne risque rien. C'est pas comme un patron qui risquerait, grâce à l'exploitation quotidienne, un peu de capital qu'il a avancé, non. Le président de l'université, en France, officiellement, formellement, il est élu, mais en réalité, effectivement, c'est un poste politique et un poste particulièrement symbolique aussi, mais le pouvoir est là en tout cas. Donc ce qui s'est passé est extrêmement grave à Strasbourg. Alors pourquoi c'est grave ? Le problème n'est pas tellement qu'on ait un curé qui exerce la présidence de l'université. Après tout, qu'il soit curé ou non, pourrait ne pas poser un tel problème. Mais le problème, quand on est président d'université, c'est qu'il ne faut pas être que curé. Or, Michel Deneken, qui vient d'être élu à la présidence de l'Université publique de Strasbourg, n'est qu'un théologien, n'est qu'un curé, n'est qu'un prêtre. C'est-à-dire qu'il a fondamentalement rien à voir avec le monde académique. Alors, on aurait pu imaginer qu'il soit à la fois curé et savant, astrophysicien, biologiste, mathématicien, même, ça a existé, hein, dans l'histoire de France, des curés qui finalement s'intéressent pas beaucoup, hein, mais il y en a eu, qui s'intéressaient davantage au monde académique qu'au monde des illusions, qu'au monde de la religion. Mais le problème, c'est que Michel Deneken, qui vient d'être élu donc président de l'Université de Strasbourg, n'est pas de cela. Il n'est que curé, il n'est que théologien, et la seule connaissance qu'il habite, si j'ose dire, eh bien, ce sont des chimères, c'est la Trinité, hein, c'est la réincarnation, c'est les miracles, c'est un théologien catholique. Ce sont ces fadaises qui habitent son univers mental. Et c'est tout à fait inquiétant de voir une collectivité publique qui est censée dispenser le savoir se donner pour président une personnalité de ce type. Alors, comment c'est possible ? Structurellement, on l'a dit, eh bien, de manière dérogatoire, l'Université publique de Strasbourg inclut dans son cadre la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Autrement dit, on a un mélange entre une structure religieuse et une structure républicaine. Cette faculté de théologie catholique délivre des diplômes en droit canonique. Alors ça, je vois d'ici les auditeurs, les auditrices sourire. Ce sont des diplômes donc qui sont reconnus depuis peu, hein, je crois que c'était Kouchner, par les accords France-Vatican de 2008. Qu'est-ce que c'est le droit ? Ce droit canonique, c'est un droit strictement privé qui ne s'applique qu'à l'intérieur de l'Église catholique. Donc on ne voit pas par quel miracle l'État aurait à reconnaître ce droit et ses diplômes. Et il ne peut qualifier ce droit que ses prêtres et ses agents laïcs, c'est-à-dire les adeptes. Il ne concerne finalement qu'une minorité de personnes. Il n'a évidemment aucune valeur d'intérêt général, puisque fondé sur des dogmes particuliers, des dogmes religieux, et placé sous le contrôle idéologique de la hiérarchie ecclésiale. Et donc, on ne peut pas, absolument pas, considérer cette connaissance comme un savoir objectif et rationnel, contrairement aux disciplines universitaires. Voilà. Alors, c'est donc extrêmement grave. Et d'où vient cette reconnaissance, ces études de droit canonique sont reconnues par la Constitution apostolique Sapientia Christiana du 29 avril 1979 sur toutes les universités et facultés ecclésiastiques du monde. Hein, on vous parlait la semaine dernière de la formation des prêtres avec cette interdiction d'homosexualité. Eh bien là, c'est pareil. C'est le Vatican, c'est le bon Bergoglio qui a la mainmise sur toutes les universités, facultés ecclésiastiques du monde. Donc c'est quand même un pouvoir très centralisé. On peut lire peut-être rapidement un extrait de l'article 39 de cette constitution apostolique Sapientia Christiana. Je lis. Conformément aux normes du Concile Vatican II, en fonction de la nature de chaque faculté, une juste liberté sera accordée à la recherche et à l'enseignement de façon à obtenir un véritable progrès dans l'étude et la compréhension de la vérité divine. La vérité divine. En même temps, il est clair que à la véritable liberté dans l'enseignement est nécessairement contenue dans les limites de la parole de Dieu, comme professée notamment par le magistère de l'Église. Une véritable liberté dans la recherche est nécessairement fondée sur une ferme adhésion à la parole de Dieu et un respect du magistère de l'Église, à qui revient l'interprétation authentique de la parole de Dieu. En conséquence, sur des questions d'une telle importance, on se doit, de procéder avec prudence, confiance et sans provoquer de soupçons, en même temps qu'avec l'esprit de jugement et sans témérité, en particulier dans l'enseignement, tout en travaillant à harmoniser avec soin les nécessités de la science avec les besoins pastoraux du peuple de Dieu. Voilà, cette soupe en fait se réduit à un seul mot, hein, c'est la hiérarchie de l'Église catholique qui décide quelle est la connaissance et qu'est-ce qui ne doit pas faire partie de la connaissance. Donc c'est extrêmement autoritaire et pour tout dire, tout à fait insupportable. Donc honte évidemment à la République française d'avoir signé ces accords et honte à l'Université de Strasbourg d'avoir élu un curé à la tête de cette institution. Alors, je crois que puisqu'on est toujours un petit peu dans le droit, on peut citer le code de l'éducation. Les auditeurs et les auditrices qui auront envie de creuser se tourneront vers l'article 141-6. Je lis cet article du code de l'éducation. Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute entreprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Donc on peut retenir les quatre types d'emprises, hein, parce qu'ils sont tous réunis là à Strasbourg, c'est absolument parfait. Politique, économique, religieuse ou idéologique. Donc si les activités de la faculté de théologie de Strasbourg ne respectent pas les ordres du Vatican, ben, ces diplômes ne seront plus reconnus ni labellisés catholiques. Et le code de l'éducation, lui, affirme exactement le contraire. Autrement dit, la contradiction est insupportable. Et ce monsieur Deneken, nouveau président de l'Université de Strasbourg, est obligé de se soumettre en tant que professeur de théologie catholique à cette hiérarchie vaticane. Donc, eh bien, cette élection d'un théologien à la présidence d'une université, elle est tout simplement illégale. Et il est absolument insupportable qu'elle ne soit pas annulée. Il est absolument insupportable que ce monsieur Deneken reste président de l'Université de Strasbourg. Alors ce monsieur Deneken, donc il est né en 57, c'est un prêtre catholique, Et il a fait ses études secondaires au lycée Kléber. Il a étudié la théologie à l'Université des sciences humaines de Strasbourg. Il a soutenu sa thèse en 86. Et dès 89, ça a été assez rapide pour lui manifestement, il devient maître de conférences. Il est habilité à diriger des recherches. Et quelles recherches ? Et il est nommé professeur des universités en 2003. Donc ça veut dire 4, 5, 6 000 euros de revenus mensuels. Pour ainsi dire, sans rien faire. Hein. Voilà, il est également doyen de la faculté de théologie et directeur de l'action culturelle de l'Université de Strasbourg. Il est président, et ça c'est particulièrement inquiétant, Marie-Christine, de l'ADUES, l'Association pour le développement des liens université-entreprise dans les industries de santé. Voilà le genre de théologien catholique qui n'a pas perdu le nord au niveau du fumier du diable, hein, l'argent, comme dirait le bon Bergoglio. Il sait bien s'orienter. Alors, comment c'est possible ? Ben, avec la loi LRU, on a conçu une université ouverte à tous les vents, justement, à toutes les influences économiques, politiques et religieuses. Et donc, c'est une loi donc voulue par Sarkozy et sa clique, et c'est une loi qui va réussir manifestement à démanteler tout le service public d'éducation supérieure en France. Là, je crois que c'est une étape importante qui a été franchie à Strasbourg. Il a été élu par 26 voix contre 9 pour son opposante, ce qui veut dire qu'il a obtenu une large majorité. On a 36 membres au conseil d'administration. Et déjà, il faut noter que sur ces 36 membres, il n'y a que 16 enseignants-chercheurs. Donc, ils ne sont pas la majorité. Autrement dit, même si tous les enseignants étaient tous unis, ce qui est évidemment jamais le cas, ils ne pourraient pas s'opposer dès lors que la décision a été prise en amont, par tout moyen de pression, tous ceux que vous pouvez imaginer. Eh bien, de toute façon, les enseignants auraient une voix minoritaire. Parce qu'en dehors des 16 enseignants, il y a 8 personnalités extérieures. On va expliquer ce que sont les personnalités extérieures. 6 étudiants et 6 biats, c'est les personnels de bibliothèque, des ingénieurs, des administratifs, des techniciens, des personnels de service et de santé. Alors, c'est ce conseil d'administration qui s'est prononcé en faveur de l'élection de ce curé. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas inintéressant de regarder les personnalités extérieures. 5 sont élus et 3 sont carrément nommés. Donc on ne sait pas d'où elles viennent. Hein. C'est que du relationnel bien placé, du piston, appelons ça comme on voudra. On a donc une certaine Geneviève Lepelletier qui vient de la Socomec. Voilà, c'est une entreprise. Donc on voit tout à fait le rapport avec le conseil d'administration d'une université. On a une syndicaliste, Marie-Christine, et ça, je sais que ça va te faire plaisir. Elle s'appelle Sabine Gies et elle est à la CFDT. Et oui, on a les syndicalistes qui sont nécessaires pour ce genre de tâches. On a un responsable d'une association prétendument pour aider la lecture, mais en fait pour les enfants, qui s'appelle Epopia, mais il s'agit surtout de travailler sur le filon de la technologie numérique dans les industries culturelles. On a une proviseure, une petite chef d'établissement, Marie-Claude Mathieu, du lycée Cassin. Et on a un enseignant d'une autre université, Alain Diterlen. Donc 5 personnalités et 3 personnalités nommées, donc ce sont des politiciens. Robert Herman, président de l'Eurométropole. Lilia Mérabet, c'est la nouvelle région Grand Est. Et même un représentant du CNRS, c'est là que c'est navrant, Dominique Massiot. Et tout ce petit monde a voté. Ils ont voté et ils ont voté pour un curé. Alors, il faut noter aussi le rôle trouble des étudiants. Hein. Manifestement, l'Université de Strasbourg n'est pas constituée d'étudiants contestataires. Hein. C'est-à-dire que l'UNEF est considérée par l'association étudiante comme une organisation manifestement d'extrême gauche. Eux, ce sont des bons petits étudiants et ils font partie, leur syndicat s'appelle l'association des fédérations d'étudiants de l'Université de Strasbourg, quelque chose de très très neutre, hein. J'ai pas le sigle en tête, voilà, ça s'appelle la FGES, donc la Fédération Générale des Étudiants de Strasbourg. Et c'est des gens qui ont soutenu le curé. Ces étudiants, ces bons petits étudiants, ont estimé qu'il fallait s'illustrer dans tout le pays en permettant à Strasbourg d'élire à sa tête un président curé. Alors un grand bravo à ces étudiants, on peut estimer qu'ils iront loin et que leur carrière politique démarre très très fort. Bon, cette élection a été dénoncée, hein, mais toujours comme d'habitude, assez mollement par le SNESUP, la FSU. Ils ont dit que c'était un signal inquiétant. Bon, moi je dirais quand même un peu plus. C'est pas un signal inquiétant, c'est un monde qui bascule, tout simplement. Donc ils se sont contentés d'euphémiser. Et effectivement, une fois de plus, ben, c'est ces directions syndicales qu'il faut interpeller. Et puis le système, hein, de faisceaux de pouvoir et d'intrigues dans l'université, ces directeurs, ces directrices d'unités de recherche qui sont maintenant transformés en quémandeurs, et donc c'est complètement un travail politique finalement, leur travail, et leurs compétences académiques ne sont plus nécessaires. Tout ce qui compte, c'est qui soutient qui, dans quel clan on se positionne, et apparemment, ben, le curé s'est bien débrouillé, il a eu le soutien manifestement de quelques unités de recherche. Et également, il y aurait deux prix Nobel à Strasbourg, alors ne me demandez pas lesquels, j'ai même pas envie de savoir, mais manifestement, on a là encore des prix Nobel eux-mêmes qui ont soutenu un candidat curé. Le Parti Socialiste aussi, et ses élus à l'Eurométropole, on a vu qu'il y avait un responsable de l'Eurométropole, qui ont confié leur suffrage à Deneken en prétextant que la majorité des scientifiques soutenaient Deneken. Ce qui est faux, hein, quand même. Chez les enseignants, il y a eu une prise de distance, mais comme on l'a dit, les enseignants ne sont pas majoritaires pour voter. Dernier point peut-être qui peut expliquer cette lamentable élection, c'est l'identitarisme alsacien. Ce magnifique sentiment patriotisme minable et régionaliste qui permet notamment au Front National de faire d'excellents scores dans les villages les plus reculés d'Alsace. Et donc ça a permis de se singulariser. Peut-être on a voté aussi Deneken pour montrer qu'on n'était pas comme à Paris. Hein. C'est l'Alsace réactionnaire et cléricale qui vient de remporter une victoire avec l'élection de ce prêtre. Cette Alsace qui va voter Fillon, qui va voter Le Pen. Et donc ce vote pour Deneken, le curé de Strasbourg, il est inquiétant. Il est parfaitement inquiétant. Et comme on l'a dit, c'est un tournant dans l'université française. Et je crois qu'on n'a pas fini de parler de l'université de Strasbourg.